Soyez tous les bienvenus. France Info, midi.
France Info, midi 14h, Frédéric Carbone.
Toute l'info, bonjour Armand Perrault-Loguer.
Bonjour.
Et à la une donc, l'optimisme du ministre de la Santé face au coronavirus.
Nous sommes en train de reprendre progressivement le contrôle, mais nous n'avons pas terminé le combat, a dit Olivier Véran ce matin. Les responsables des cultes espèrent une reprise prochaine des célébrations. Ils seront reçus cet après-midi par le Premier ministre. C'est une question qu'on se pose presque tous. Avons-nous atteint le pic de cette deuxième vague d'épidémie de Covid ? Oui, répond le ministre de la Santé. Olivier Véran le dit dans la presse quotidienne régionale et il a apporté des précisions tout à l'heure lors d'un déplacement au port de Bron, près de Lyon. Déplacement pour assister à des transferts de malades vers des régions moins touchées par le Covid. Le ministre de la Santé constate que les indicateurs s'améliorent en France.
Il y a désormais moins de nouveaux malades par jour. Le taux de positivité des tests s'est également progressivement réduit. Et les fameux indicateurs que les Français ont commencé à manipuler au début de la deuxième vague, des indicateurs d'incidence, vont plutôt vers le mieux. Cette décroissance, nous l'observons en France. Nous l'observons également dans un certain nombre de pays qui nous entourent et qui ont mis eux aussi des mesures de confinement en place. Donc ça, c'est le côté qui est positif de la chose, c'est-à-dire que nous sommes en train de reprendre progressivement le contrôle sur cette épidémie, mais pour autant, il y a encore beaucoup de nouveaux malades par jour. Chaque jour, plus de quasiment 30 000 malades en moyenne sont diagnostiqués chaque jour dans notre pays. Il y a encore plus de 2 000 malades par jour qui sont hospitalisés chaque jour dans notre pays. Il y a encore plusieurs centaines de malades qui sont admis dans les réanimations de notre pays. Donc nous n'avons pas terminé encore ce combat contre le virus.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les violences conjugales en hausse l'an dernier en France, plus 16% par rapport à 2018. 142 310 personnes en ont été victimes. Chiffre donné ce matin par le ministère de l'Intérieur.
Le billet science sur France Info. Bonjour Anne-Laure Barral.
Bonjour.
Santé publique France le constate, la santé mentale des Français s'est dégradée depuis fin septembre avec une augmentation de 10 points du nombre de ceux qui se déclarent dépressifs.
Oui, c'est ce que nous dit l'enquête Coviprév qui interroge chaque semaine un échantillon de Français sur leur état d'anxiété par rapport à l'épidémie, au confinement, mais aussi à leur situation financière. Et aujourd'hui, cette inquiétude, elle augmente dans toutes les catégories, plus particulièrement chez les 18-34 ans. Dans le même temps, l'ensemble des personnes interrogées sont plus nombreux, 56% à limiter leur interaction sociale contre 25% lors de la dernière enquête fin octobre.
Le manque de contact physique explique donc en partie cet état dépressif.
En partie, oui. Et la recherche a déjà montré que le contact physique était très important pour la santé mentale et le bien-être. Une étude américaine faite en 2016 auprès de 600 mères de famille et leurs nouveau-nés avait déjà montré comment le pot à pot, vous savez, le fait de laisser le bébé en contact direct avec la peau de sa mère juste après l'accouchement, réduisait le stress des deux. Il faut dire qu'il y a une explication chimique à ce bien-être, c'est la libération d'une hormone, l'ocytocine. Elle permet de faire baisser la pression sanguine. Un câlin déclenche aussi de la sérotonine. Et quand nous en manquons, c'est là qu'apparaissent les sautes d'humeur, voire la dépression. En plus, le confinement, la peur du Covid nous remplissent d'adrénaline. Alors l'hormone qui nous excite, voire qui nous rend agressif. Alors que notre santé mentale, elle a besoin d'un équilibre chimique aussi avec les autres hormones du bien-être.
Oui, mais les câlins ne sont pas vraiment conseillés dans les gestes barrières.
Alors, c'est vrai. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent provoquer ces hormones, le sport, manger un petit carreau de chocolat de temps en temps. Mais consciente que les contacts physiques sont très importants dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, la France, et bien deux chercheuses en virologie à l'université de Griffith en Australie viennent d'écrire un article dans The Conversation où elles donnent en fait 6 conseils pour limiter les risques. Alors il ne faut pas prendre dans ses bras quelqu'un qui a des symptômes évidemment, ou des personnes vulnérables, âgées, immunodéprimées. Il faut le faire plutôt avec un masque, en tournant la tête, pas vraiment joue contre joue. En retenant un peu son souffle, et puis il faut se laver les mains avant et après.
France Info.
Et voici France Info Junior.
Anna, Eric et Aaron sont avec nous aujourd'hui et en CM2 à l'école Gambetta de Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Nadège Larcher.
Bonjour.
Vous êtes psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Une épidémie, un confinement, un reconfinement, tout ça a un impact évidemment. Ça peut susciter quelques angoisses. Anna, tu as un mot à dire là-dessus.
Enfin, il y a des risques que nos grands-pères ou nos grand-mères, elles attrapent le coronavirus et qu'elles, ils peuvent mourir.
Alors oui, évidemment, parce qu'on sait que les personnes dites fragiles, et notamment les personnes âgées, eh bien, sont particulièrement infectées par ce virus. Donc les enfants ont très bien compris cette donnée, et comme ils tiennent particulièrement à leurs grands-parents, eh bien sûr, ça les inquiète. On a autant besoin de rassurer les enfants que les grands-parents, parce qu'eux aussi ont besoin de garder un lien. Alors heureusement, on a aujourd'hui des moyens modernes qui permettent de continuer à se voir, notamment par les écrans, puis là il n'y a vraiment aucun risque. Et puis quand on a la chance de pouvoir se voir physiquement, c'est important de garder les gestes barrières, la distance, éventuellement porter un masque. Il vaut mieux se voir masqué que ne pas se voir du tout.
Alors ce reconfinement, il est différent puisque vous, les enfants, vous allez à l'école, mais bon, les week-ends peuvent paraître un peu longs. Anna, comment tu t'occupes, toi ?
Moi, je le passe bien. Enfin, je suis bien chez moi parce que j'ai trouvé une activité à faire. C'est que du coup, pendant le confinement, j'ai trouvé plein d'escargots. Alors j'ai décidé de faire un élevage. Petit à petit, on a acheté des grosses boîtes avec plein de trous. Et ils ont fait des bébés et tout, c'est trop mignon. Je les ai encore et enfin voilà.
Un élevage d'escargots pour toi, Anna. Et toi, Aaron, qu'est-ce que tu fais ?
Je regarde un peu les BFM TV. Je regarde mon téléphone. Je joue sur ma PS4 et je mange et je dors.
L'élevage d'escargots, la télé, les jeux vidéo, Nadège Larcher, chacun son truc.
Alors chacun son truc, évidemment. Alors l'activité des escargots plutôt bien trouvée. En plus, le symbole de l'escargot, cet animal qui prend son temps et qui a besoin d'aller lentement, eh bien c'est quand même très bien trouvé pour un confinement. Ce qui est important surtout, c'est de retrouver des activités qui vont nous permettre de rester à la maison calmement. Anna, elle a compris qu'il fallait reprendre un peu le contrôle de notre temps et de notre vie et de se créer des nouvelles activités. Alors bien sûr, les écrans occupent une très grande place. Ils occupent déjà une grande place en temps normal. Alors avec le reconfinement, eh bien c'est un problème supplémentaire. Après, on pourrait peut-être dire à Aaron qu'il peut aussi garder le contact par rapport aux écrans. Et peut-être l'idée, c'est de repousser au maximum le moment où il va se mettre face aux écrans. Alors par exemple, de faire l'effort de goûter sans écran. Et puis d'essayer peut-être d'avoir une activité manuelle, de construction, de cuisine par exemple, avant de prendre son téléphone. Parce qu'effectivement, une fois qu'il est devant l'écran, eh bien, c'est très difficile de s'en séparer.
Et puis on peut toujours sortir un peu. Eric, tu trouves ça quand même un peu frustrant ?
Pourquoi on peut sortir qu'une heure ? Parce que moi, parfois je sors avec mes potes et je peux pas durer un peu plus longtemps pour m'amuser. Et ça me gêne. Alors qu'avant, je pouvais sortir au moins 3 heures, 2 heures. Et maintenant, ça me gêne.
Et oui, parce que ça paraît peu et on peut le comprendre, mais l'idée du confinement, c'est de limiter le nombre de personnes que nous allons croiser dans une journée. Donc si, Eric, tu sors pendant 2 ou 3 heures, tu vas croiser plus de gens que si tu restes uniquement 1 heure. C'est un effort et une frustration que nous sommes obligés d'accepter et de tous faire pour pouvoir freiner l'épidémie.
Aaron, tu as encore une question ?
Est-ce que si on reste trop souvent à la maison, est-ce qu'on reste en bonne santé ou pas ?
Alors, heureusement, les enfants continuent à aller à l'école, donc ils sortent encore tous les jours. Donc les conséquences sur la santé, sur ta santé, Aaron, vont normalement être limitées. Mais par contre, tu as raison, c'est important de garder une activité physique. Donc peut-être que tu peux faire du sport à la maison ou au moins danser. Et puis peut-être qu'il est possible d'aller à l'école à pied ou d'en revenir à pied. Ça reste une activité physique importante. On a quand même le droit, comme l'a dit Eric, de sortir 1 heure. Donc c'est important de garder une activité physique, même si ce n'est pas en club.
Et on a bien noté tous vos conseils. Merci beaucoup, Nadège Larcher, d'avoir répondu à Anna, Aaron et Eric. C'était France Info Junior avec Estelle Faure.
En ce qui concerne le sport professionnel, pas question d'autoriser le retour du public dans les stades avant début 2021, avec des jauges certainement limitées. L'étau sanitaire se desserre un peu pour les fleuristes. Dès vendredi, ils pourront vendre des sapins de Noël à l'extérieur de leur boutique. Les autres commerces non essentiels sauront la semaine prochaine s'ils peuvent rouvrir le 1er décembre. C'est toujours l'objectif du gouvernement. Mais selon son porte-parole Gabriel Attal, cette date pourrait être un peu avancée si les nouvelles sont bonnes sur le plan sanitaire. Une réunion gouvernement-commerçant à ce sujet est prévue vendredi. De leur côté, les bars, les cafés et les restaurants ne rouvriront sans doute pas avant la mi-janvier. C'est selon nos informations le scénario privilégié actuellement par le ministère de l'Économie.